RCF.
Bonjour amis auditeurs, auditrices de notre émission mensuelle « La vie militaire dans le Cher et le Berry » sous le patronage d'Agora Défense et dans le cadre du Berry se raconte. Nous arrivons à notre troisième émission consacrée aux clergés réguliers et séculiers dans cette fin du 19e et jusqu'à la moitié du 20e siècle. Ce thème aujourd'hui, les conséquences de la Première Guerre mondiale sur notre clergé poilu. Pour en parler, notre invité fidèle de RCF, Michel Delagarde, vice-président d'Agora Défense, spécialiste des Américains de la Première Guerre mondiale, mais aussi passionné par tout ce qui touche à l'histoire de notre Berry et en particulier à sa vie religieuse. Bonjour Michel.
Bonjour Bernard.
Vous avez tenu, Michel, absolument à parler du père Brottier. Pourquoi ? Allez, le père Brottier.
Le bienheureux père Daniel Brottier. J'ai voulu évoquer ce personnage parce que on ne peut pas lire un article, et Dieu sait que j'en ai lu, ni lire un livre sans parler du père Brottier. Alors, le père Brottier a été aumônier militaire, mais au niveau, il sera après fondateur des apprentis d'Auteuil. C'est peut-être ce qui a fait sa réputation. Mais surtout, il fut, avec Georges Clemenceau, cofondateur de l'Union nationale des combattants.
Oui.
Reconnu d'utilité publique en 11 décembre 1918 et qui aura 1 million d'adhérents dans les années 1920. Unis comme au front, telle était la devise.
Ce qui est quand même assez intéressant, si je puis rebondir là-dessus, Michel, c'est que Clemenceau se soit mis d'accord avec un prêtre.
Oui, c'est... mais peut-être est-ce déjà une première image du virage que l'on va constater après la guerre, et en particulier à partir de 1924. Nos prêtres combattants auront découvert de nombreuses choses dans les tranchées. Ils auront découvert d'abord la boue comme les autres. Ils auront vécu avec les hommes. Quelquefois, ils auront servi de secrétaire aux illettrés. Ils auront fait le joint avec les familles.
Ouais.
C'est quelquefois eux qui envoyaient des courriers pour expliquer comment le mari, le père était mort, et ça aura marqué énormément la France. Ils auront aussi découvert une certaine internationalisation. Ils vont se retrouver avec des aumôniers anglais, des aumôniers américains à la fin de la guerre. Ils vont croiser des aumôniers allemands. Tous, ils vont croiser aussi, il y aura une forme d'œcuménisme qu'ils vont découvrir, parce qu'ils vont travailler avec des rabbins, ils vont travailler avec des pasteurs. Et au moment où un homme est blessé ou mourant, que ce soit le pasteur ou l'aumônier catholique, pour l'homme mourant, c'est le secours de l'Église.
Tout à fait.
Donc il y a une forme d'œcuménisme qui va se développer. Une belle image d'ailleurs de ça, c'était une séance de décoration où l'on voit côte à côte un rabbin, un prêtre catholique et un aumônier protestant. Cet œcuménisme qu'ils découvrent, c'est quand même extrêmement important pour leur vie future. Une chose qu'il faut savoir aussi, parce que la question m'a souvent été posée, c'est et les régiments musulmans. Y avait-il des imams ? La réponse est non, il n'y avait pas d'imams. Mais dans les régiments, en général, un homme particulièrement proche, connaisseur des rites et de la religion musulmane était désigné pour faire office d'eux, et en particulier, il organisait les enterrements selon
le rite
musulman.
Très bien.
Mais la création d'aumôniers musulmans est beaucoup plus récente.
Très bien. Alors merci pour ces explications. Alors justement, vous nous parlez d'écuménisme. Moi, je vais être encore beaucoup plus direct avec vous, Michel. Nos prêtres combattants, maintenant démobilisés, comment sont-ils perçus par les Français et Françaises dans leurs paroisses et autres ?
Alors, il faut savoir qu'à leur retour, c'est tout à fait le prêtre dans sa paroisse de campagne. C'est l'homme, comme je l'ai déjà dit, qui écrivait, qui donnait des nouvelles. C'est l'homme qui réconfortait. Les prêtres qui étaient non combattants et qui étaient restés dans la paroisse jouaient aussi un rôle énorme auprès des familles pour les aider. Donc il y a eu une osmose qui s'est créée entre le clergé et la population française. On verra comment cela s'est traduit à partir de 1924. Simplement sur cette période, il faut noter que le 2 mars 1922, Pie XI va signer d'une certaine façon la réconciliation entre l'État français et la papauté. Les relations diplomatiques vont être rétablies. Nous sommes à cette période avec la Chambre Bleu Horizon. Donc, il n'y a plus de problème et Jeanne d'Arc est faite patronne secondaire de la France.
Donc c'est véritablement 1922 que les relations entre la papauté et la Troisième République redeviennent, on peut dire, correctes.
Tout à fait.
Chambre Bleu Horizon. Rappelez-nous ce que c'est que la Chambre Bleu Horizon.
La Chambre Bleu Horizon, c'est ce qui est sorti des élections de 1920 et qui était beaucoup moins laïcarde, très nettement moins laïcarde que la Chambre précédente.
Exactement. Et que la plupart des députés avaient été sous l'uniforme Bleu Horizon.
Exactement.
Alors, après ces relations idylliques, 1924, nous avons le retour de ce qu'on appelle le cartel des gauches.
Oui.
Alors, quelle va être l'attitude de ce cartel des gauches vis-à-vis de l'Église ?
Eh bien, nous allons retomber, comme avant la guerre, dans un laïcisme violent. C'est Édouard Herriot qui va se mettre dans la tête de rétablir les décrets qui était en vigueur avant la guerre. Mais là, les choses ne vont pas se passer comme d'habitude, comme avant. Le père Doncœur, supérieur jésuite, va créer une association qui s'appelle la DRAC, la Défense des religieux anciens combattants. Il écrira à Herriot, et il lui écrira: nous ne partirons pas. Les droits des religieux anciens combattants seront amusants, si l'on peut dire, présidés au départ par Jacques Péricard du 95e RI.
Oui.
Parallèlement à la création de la DRAC, le général de Castelnau va créer la Fédération nationale catholique. Et il sera soutenu en ça par les évêques de France. Le général Édouard de Currière de Castelnau sera appelé par dérision le Capucin Botté.
Tout à fait.
La FNC, la Fédération nationale catholique, organisera des manifestations partout en France. Et là, le peuple français va répondre. Et il va dire non à Herriot et au cartel des gauches qui abandonnera son projet de revenir sur l'expulsion.
Tout à fait. Alors, période de l'entre-deux-guerres terrible, difficile économiquement avec la crise de 1929 et malheureusement, fin des années 30, début des menaces sur l'Europe et cette défaite de 1940 reste un profond traumatisme pour la France et les Français. J'aimerais vous poser une question qui est parfois un peu difficile. Comment nos prêtres religieux abordent et réagissent dans cette délicate période de notre histoire ?
Très diversement.
Très diversement, voilà.
Très diversement. Souvenons-nous d'abord que sur les 96 évêques de France en 1940, 51 avaient été au front pendant la Première Guerre mondiale. Un certain nombre d'entre eux avaient été décorés, certains même par Pétain. Donc, ce qui va se passer, c'est que les évêques de France vont se prononcer en faveur de Pétain. Et ils vont dire « Nous vénérons le chef de l'État et nous demandons instamment que se réalise autour de lui l'union de tous les Français. Nous encourageons nos fidèles à se placer à ses côtés dans l'œuvre de redressement qu'il a entrepris sur les trois terrains de la famille, du travail et de la patrie. » Chose curieuse, mais remarquable, un seul des évêques va se désolidariser, c'est Mgr Saliège, qui va réagir très fortement du fait que dans son diocèse, il y avait eu des camps. Il y avait des camps, le camp de Noé et le camp de Ressébédou. Et il dira, les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils sont nos frères. Comme tant d'autres, un chrétien ne peut l'oublier. Il sera le seul des hautes instances. Mais, au niveau du clergé ordinaire, si l'on peut dire, celui qui est au contact, par contre, il y aura une réaction et de nombreux prêtres vont s'engager dans la résistance. Le curé de la cathédrale, Mgr Le Guen, en est un exemple. Thierry d'Argentlieu, ouais, qui était un carme, en est un autre exemple. Également, des monastères vont entrer en résistance, cacher des résistants, cacher des juifs, les faire passer ailleurs. C'est d'ailleurs à ce titre que Notre-Dame des Dombes aura la Légion d'honneur et la médaille de la résistance.
Merci Michel pour ces explications qui ne font qu'effleurer une réalité très complexe. Une nouvelle émission d'ailleurs serait la bienvenue pour creuser toutes ces interrogations. Merci à vous auditeurs, auditrices pour votre grande fidélité à cette émission consacrée à l'histoire militaire de Bourges et du Berry avec Agora Défense. Bonne semaine et bel été.
Rappelons simplement pour terminer que le 31 mars 2015, à l'occasion du centenaire, dans la cathédrale du diocèse de aux armées Saint-Louis des Invalides, une plaque a été inaugurée à la mémoire des 2949 prêtres diocésains, 1591 religieux, 1300 séminaristes, tombés au champ d'honneur en 1914-1918, et à la mémoire des 375 religieuses mortes au service des soldats.